Lesmart, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on critique, on décortique les shows de la WWE et consorts, mais pas que. On invite aussi des stars, je suis Raphaël, mais n'hésitez pas à suivre ce que font nos amis Tonton, Ringside. Ils ont invité Jean Brassard, une grande légende vivante de la voix francophone du catch, mais ici, on est pas mal à Catch Up aussi niveau voix francophone du catch. On parle des anciens avec Jean Brassard, on va parler des petits nouveaux. J'invite un nouveau membre de Catch Up qui fait son premier pay-per-view pour ce WrestleMania Backlash Review. Il s'appelle Zygote, souhaitez-lui bon accueil. Ça va Zygote ?
Ça va très bien. Et toi Raphaël, merci de l'invitation pour ce tout premier pay-per-view pour ma part. Et allez écouter le You Talk Too Much avec Jean Brassard. C'est un petit bijou.
Ah bah bien sûr, ouais, exactement. N'hésitez pas à écouter comme ça les parcours des uns et des autres. D'ailleurs, toi-même, hein, Zygote, tu es passé sur le grill des questions.
Tout à fait.
Voilà, pas trop stressé par cet exercice.
Non, pas du tout. Après, vous savez, recevoir et accueillir.
Ah bah ça fait plaisir. Bon, on essaye de créer une bonne ambiance, toujours, entre copains, entre passionnés. Hein. Eh bah écoute, premier pay-per-view alors.
Tout à fait, premier pay-per-view. Là, je me suis déjà eu ma séance de bizutage avec Raw, je ne sais plus. Si, peut-être. Ah, j'ai un doute. SmackDown, j'en ai déjà fait deux. Raw, je crois un. Et là, oui, mon tout premier pay-per-view. Et après, je ne touche pas à la IW. Hein. Comme dirait Papy, ce sont des faits de mineurs. Du coup, je ne m'y intéresse pas.
Ah, ça viendra peut-être. En tout cas, là, comme tu dis, on est dans la Big League, donc on va être ensemble pour reviewer ce WrestleMania Backlash 2021. Donc toujours dans le Thunderdome, évidemment, nous sommes toujours sans public. Malheureusement, ce WrestleMania était une petite parenthèse. Hein. On entend parler de SummerSlam pour un nouveau retour de la foule, mais écoute, on verra bien. On verra bien. Est-ce que, Zygote, tu as vu le pré-show ?
Comme la plupart des membres de Catch Up, non.
Eh ben moi non plus, c'est formidable. Donc on va expédier ça très très vite, il suffit de lire un résumé pour apprendre que Sheamus a fait un petit peu son kéké en Open Challenge à nouveau et qu'il a affronté Ricochet, le bon ami de notre ami Tonton, et que Ricochet a perdu. Voilà, donc voilà, peut-être un nouveau challenger voilà, qui est en train de se créer pour remplacer un peu Humberto Carrillo. Pourquoi pas, ma foi.
Oui, du coup, vu qu'il a été blessé la semaine dernière, et comme je n'ai pas entendu parler de la gravité de la blessure de Carrillo, du coup.
Bah, je ne sais pas non plus. Mystère.
Fast-checking, peuple de catch-up.
Fact-checking. Bon, le premier match, l'opener, on avait des matchs costauds hein, sur cette affiche de Backlash. C'est le Raw Women Championship, donc Triple Threat, comme on dit. La championne, Rhea Ripley, qui affronte Asuka, la précédente championne, et la fameuse Charlotte Flair qui a réussi à foutre son nez là-dedans, comme d'habitude, qui est de retour. Bon, Triple Threat à la WWE, on connaît, hein, on sait faire, du classique, pas mal d'enchaînements où elles sont à 1 contre 1 pendant que la troisième reprend des forces à l'extérieur. On a eu quand même des beaux moves à 3, hein, notamment un moment où Asuka et Rhea Ripley chopent Charlotte qui était sur le turnbuckle pour lui faire une grosse superplex à 2. Charlotte, elle a fait son retour à l'envoyeur en faisant son grand classique, le moonsault depuis le turnbuckle vers l'extérieur du ring sur les deux autres aussi. Moi, j'ai trouvé que Asuka avait été particulièrement dominante en faisant beaucoup de strikes. Il y a pas mal de moments où elle enchaînait les deux avec des coups de pied, des coups de genoux, des coups de coude. Charlotte réussit à un moment à prendre l'avantage et fait un magnifique double natural selection sur les deux en leur écrasant la tête en même temps. Malheureusement, je pense qu'elle a fait ce qu'on appelle un péché d'orgueil, en essayant de faire un pin sur les deux à la fois. C'est prise pour Roman Reigns, en essayant de se coucher sur Asuka et sur Rhea Ripley, donc ça n'a pas bien fonctionné, ça a fait simplement near fall. Et puis au bout de 15 minutes de combat, alors que Charlotte est à l'extérieur du ring, Rhea Ripley réussit à placer son Riptide sur Asuka pour conserver son titre. Donc finalement, la championne reste championne. Une grosse victoire pour la petite nouvelle hein, finalement de Monday Night Raw. Donc 15 minutes 22 d'opener, est-ce que ça t'a plu, Zygote ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Est-ce que t'es surpris ? Est-ce que t'avais pronostiqué ça ? N'oubliez pas qu'on a aussi des pronos sur catch-up. Bon, ben là, trop tard pour pronostiquer Backlash, mais vous pourrez faire le prochain pay-per-view. T'as gagné un point, là ?
De souvenir, oui, j'ai gagné un point. J'ai mis Rhea Ripley parce que je ne la voyais pas forcément perdre tout de suite après avoir récupéré la ceinture à WrestleMania. Et effectivement, ouais, c'était un. Enfin, l'opener a fait son taf. Je me suis emporté dedans. En même temps, dans le ring avec Charlotte, Rhea et Asuka, c'est du propre, c'est costaud. Et ouais, beaucoup de séquences très efficaces entre les trois. Et puis, comme tu disais tout à l'heure dans ton. Dans ton récap, les triple threats, ils savent faire. Et effectivement, pareil aussi, Charlotte qui veut pinner les deux, ça m'a fait penser à exactement la même chose que toi par rapport à Roman Reigns à WrestleMania. Et je trouve que personne n'a été, comment dire, amoindri. Il reste toutes les trois fortes, même si je pense que là, Asuka va pas tarder à laisser sa place pour laisser Rhea et Charlotte pour la suite du corps, parce que ça fait un moment qu'elle est dedans. Ou alors, peut-être, une Alexa Bliss qui va peut-être pointer le bout de son nez par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière à Raw.
Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la petite Alexa Bliss dans l'histoire qui pourrait revenir, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un très bon opener et qu'effectivement ça faisait une belle victoire de prestige pour Rhea Ripley.
C'est ça.
C'est vrai que sur le combat, c'est mon impression personnelle, j'ai trouvé que c'était Asuka qui était pas mal au charbon, hein, qui a pas mal épris et donné. Et peut-être c'est celle qui a le moins passé de temps à l'extérieur du ring. C'est peut-être Charlotte au final qui a passé le plus de temps un peu dominée, enfin en tout cas à encaisser un gros move et à rester un peu cachée, mais. Le
Elle a pu
résultat.
jouer la partition de la heal. Tu sais, peut-être qu'on l'a, du coup, elle combat moins, elle regarde plus de l'extérieur, elle profite de temps de se reposer, et puis d'arriver comme une petite sournoise pour essayer de récupérer un compte à l'arrache. Sauf que, bah, du coup, non, là, ça n'a pas fonctionné, je pense.
Ouais. Oui, c'est vrai, j'ai pas décrit, mais au début de match, elle a fui un petit peu la confrontation. Avant de finalement, comme toujours, hein, les heels au début, des fois ils fuient quand il y a un triple threat, puis finalement ils finissent par se mettre sur la gueule quand même, comme tout le monde, comme des grands, donc c'est bien.
Tout à fait.
Mais voilà, donc effectivement, Charlotte pas championne de suite, c'est pas plus mal, hein.
Ouais, tant mieux parce que alors j'aime beaucoup Charlotte, mais je trouve déjà qu'elle a un nombre incalculable de championnats à son actif et peut-être un peu trop, ou ils en ont peut-être donné un peu trop vite. Ils auraient peut-être dû un peu plus s'étaler. Mais oui, puis il faut laisser Rhea un peu plus s'installer, parce qu'elle est encore un peu green pour le show Amiral. NXT, c'était plutôt pas mal. Après, là, faut la laisser, je pense, s'installer un peu plus. Et puis, il y a peut-être moyen de faire une rivalité, peut-être jusque SummerSlam. C'est peut-être un peu long, mais il y a peut-être moyen de faire un truc correct. Ou peut-être le retour d'une catcheuse d'ici là, qui a re-signé il n'y a pas longtemps.
On voit de qui tu veux parler, je pense. Suspense. On verra ce que ça donne pour les prochains rôles. Mais en tout cas, je trouve que l'affiche a rempli ses promesses. Alors que moi, j'étais pas très la FUD, je l'ai déjà dit. Enfin, tout ce qu'avait raconté Charlotte au micro, le fait qu'elle ait raté WrestleMania et qu'elle essaye de l'utiliser à sa sauce, alors qu'en fait, on sait pas trop. Hein. A priori, je sais pas si c'était le Covid ou quoi, si elle a raté. Donc, je trouvais ça mal. Enfin, ça tournait pas bien les phrases, les justifications, mais là, bon, au final, ce qu'on attend dans le catch, c'est un petit peu le match final quand même.
Ah, c'est ça, et en général, feu de pourri, combat de qualité à la WWE.
C'est souvent ce qu'on dit. Bah écoute, sur le deuxième match de la soirée, on n'a pas eu vraiment de feud, donc on va voir si c'était un bon match. Alors, c'est une petite feud, hein, c'est le titre tag team de SmackDown. Titre tag team qui n'avait pas eu la chance de WrestleMania, hein, qui était au SmackDown WrestleMania d'avant, et qui est détenu depuis un petit moment maintenant par les Dirty Dogs. Ça doit faire quoi? Depuis début d'année? Fin d'année dernière? Est-ce
Je
que tu
pense
te
que ouais, ça
souviens?
fait un moment parce que et en plus on les a vus pendant très longtemps, on les a pas vus catcher en plus. Donc du coup, je pense que ça a donné cette impression de comment dire depuis que c'est l'impression que c'est vieux. Alors je te dirais, je ne sais pas, je vais te retrouver la date, hein, je vais sûrement le trouver.
Ouais, bah très bien. On va chercher la date. C'est pendant ce temps. Qu'est-ce qui. Et en fait, alors, grosse info quand même, parce que les Dirty Dogs, Robert Roode et Dolph Ziggler, étaient censés affronter les Mysterio père et fils ce soir pour le titre. Sauf qu'ils sont allés attaquer Dominic Mysterio avant le match. Ils lui ont fait mal en lui balançant une caisson qu'il y a dans les vestiaires, comme d'habitude, là, les gros trucs de la technique ou autre. Donc, Dominic est passé à l'infirmerie et puis. Ouais, c'est toujours à WWE, souvent les infirmiers ils sont pas très précis sur les termes, ils sont là ouais, bon, pas terrible. Et du
Ouais,
coup
c'est ça.
ouais, bon, pas terrible. Du coup Rey Mysterio il a dit c'est pas grave, j'y vais tout seul pour toi mon fils. Et du coup, il part. Alors moi, j'avoue que pendant un court instant, j'ai cru qu'ils allaient nous sortir un remplaçant du chapeau. Genre, je me suis dit, qui pourrait arriver aider Rey Mysterio, tu vois, je sais pas. Je me suis dit, c'est Caïn Velasquez à revenir, ou je sais pas qui.
Non, non, merci.
Non, mais tu t'es dit qu'il y avait handicap match. Moi, j'ai vraiment cru un instant qu'ils allaient nous sortir un latino, je ne sais pas.
La même impression que toi. Pareil, je pensais qu'ils allaient ramener quelqu'un aussi, parce que peut-être que ça a été un segment backstage pour comment dire, pour mettre en avant une vraie blessure, peut-être. Parce que peut-être que Dominique a été blessé, on ne sait pas pourquoi. Et j'y ai pensé aussi. Et après, le match, il a commencé. Et quand le match a commencé, après, je te laisse dérouler le match.
Ouais, mais c'est effectivement, c'était pas le cas. Rey Mysterio est vraiment allé tout seul. Et l'arbitre a lancé la cloche. Donc, on a eu un handicap match. C'est notre ami Papy qui devait être content. Hein, lui qui adore les handicap match. Et malheureusement, pour le pauvre Rey Mysterio, il a pris cher. Hein. Il a pris une longue domination, super kick. Là, j'ai pas noté beaucoup de choses parce que voilà, c'était comme on peut s'y attendre, des spots où on l'envoie dehors, dans les barricades, on revient, on fait des prises à deux, tout ça. Ça a été long, mais finalement, Rey Mysterio a réussi. Alors, il y a un move notamment où il contre une sorte de prise à deux en double DDT, il a un petit peu d'espoir, il a un petit peu de second souffle, et là, à ce moment-là, forcément, il arrive sur la rampe de lancement, en boitant, en se tenant les côtes, mais en serrant les dents, Dominique Mysterio qui débarque, et qui demande le tag à son père. Alors, ce que j'adore dans ces moments-là, c'est que l'arbitre, lui, pour l'arbitre, tout est normal, hein, il y a tag, c'est bon, hein, il n'était pas là au début du match, mais c'est pas grave, il fait partie du match.
Ouais, c'est ça.
Il hésite, hein, Ray, il dit « Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, fiston? T'en n'es pas en état ?» Et puis bon, finalement, au bout d'un moment, il finit par taguer. Non, c'est Dominique qui se tague de force, d'ailleurs, à un moment donné. Et voilà, et donc Dominique, il prend un petit peu cher aussi au passage, mais qui arrive à enchaîner, notamment sur Robert Roode, à l'envoyer un petit peu à l'extérieur. Et au final, Rey Mysterio réussit un 619 sur Robert Roode. Il va s'occuper de Dolph Ziggler à l'extérieur pendant qu'il laisse le fiston faire un frog splash. Pas tout à fait réussi. Mais quand même, ça suffit pour Dominique pour placer son premier pin de champion, enfin de victoire d'un titre. Voilà, 1, 2, 3. Tonton Chris devait être en folie, le père et le fils. C'est historique. C'est la première fois à la WWE. On a des champions tag team qui sont liés comme ça par le sang. On a déjà eu des frères, mais on n'a jamais eu un père et un fils. Ils sont très contents. D'ailleurs, ils le disent en interview, les Mysterio. Voilà, c'est le moment de faire la fête, c'est le moment de célébrer. On est champion. 17 minutes de match, un petit peu long, historique. Est-ce que c'était le bon moment pour faire ce moment d'histoire, tu trouves, Zygote, ou est-ce que ça arrive un peu trop tôt? Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que tu as gagné ton pronostic?
J'ai gagné mon pronostic, dédicace à tonton qui a dû sauter de son canapé. Cette victoire, elle est pour toi, tonton. Et j'ai fait fast-checking, les Dirty Dogs sont champions depuis le 8 janvier 2021, exactement, en ayant battu du coup les Street Profits.
Ah oui, ok, bien. Eh bien, qu'as-tu pensé de l'affrontement?
Je suis pas trop. Alors, je suis un peu comme Papy, je suis pas trop fan des deux contre un. Après, Rey Mysterio, c'est quelqu'un qui a eu l'habitude de, tout au long de sa carrière, de combattre dans des matchs handicap ou de toujours d'être seul contre tous, de par sa taille et autres. C'est un peu long, je trouve, oui, ça a été beaucoup de passages là-bas. Je pense qu'il aurait pu l'écourter de 5 minutes pour en arriver à la même finalité, si tu vois ce que je veux dire. Parce que là, au bout du compte, un bout d'un moment, comme je te disais tout à l'heure, c'est que sur le coup, oui, je pensais que quelqu'un allait accompagner Rey Mysterio, et quand la cloche a sonné, je me suis dit, bon, ça y est, pareil convient, Dominique qui va arriver pendant le cours du match, je le savais qu'il allait venir, mais quand? Du coup, je pense qu'il aurait pu réduire un peu, parce qu'on savait, enfin, pour ma part, je savais qu'il allait arriver. Après, voilà, c'était plutôt un handicap match efficace. Après, le Frog Splash, comme tu disais, un peu foiré, mais je pense peut-être qu'il a voulu vendre sa blessure de son attaque précédente par les Dirty Dogs. Mais voilà, match efficace, c'est un peu le petit rookie qui devient champion face aux vétérans tag team, du coup, parce que dans l'histoire, même si je trouve ça toujours un peu bizarre, parce qu'en fait, au bout du compte, les Dirty Dogs ont quand même mis à passer à tabac Dominique, alors qu'ils sont pas censés en avoir peur, vu que c'est censé être le nouveau, pas le plus performant et tout. À la limite, ils auraient fait ça sur un Mysterio, ça m'aurait moins choqué, parce que c'est celui qui est le plus fort des deux, par principe. Mais bon, ils ont voulu handicaper, peut-être en pensant que le match ne se ferait pas tous les deux. Mais combat, oui, après, plus que C'est correct. C'est un bon match. Voilà, c'est après le triple threat féminin, ça passait tranquillement. Et puis j'ai une petite larme pour en pensant à Tonton après la victoire.
Ouais, c'est surtout ça. On va surtout être content pour Tonton. Moi, j'ai trouvé la même impression que toi. J'ai trouvé qu'en fait, c'était très long. 17 minutes, hein, ça fait beaucoup quand même hein, pour un match tactique.
Quasiment
je
autant
sais pas
que
si...
le premier, non ?
Ouais, plus, ouais. Le premier match a fait 15 minutes, donc c'est plus long que le match féminin. Et un match tag team de 17 minutes, c'est pas courant, je dirais, en pay-per-view, à checker. Mais je suis un peu mitigé, moi. C'est-à-dire que ça se sentait venir depuis des mois, depuis en fait, quasiment depuis que Dominique est arrivé, qu'il ferait un jour une tag team père-fils champion. Est-ce que c'est arrivé trop tôt ? Est-ce que c'est trop arrivé dans un pay-per-view un petit peu mineur ? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu de vrai feud ? J'ai l'impression que c'est pas le gros momentum que ça aurait dû être, genre dans un SummerSlam ou je ne sais quoi. Et je trouve que ce choix scénaristique, t'as raison, qui m'a un peu étonné de les voir attaquer effectivement Dominique et pas Ray Ray. Et puis en fait, c'était trop prévisible. J'ai l'impression que dès le début du match, je le savais, quoi. Comme t'as dit, que Dominique allait arriver et que ils allaient finir par gagner parce que comme ça, ils auraient vaincu l'adversité. Donc. J'ai vu ce qui s'est passé avant que ça ait lieu et ça m'a un peu gâché mon plaisir. Alors que je pense que s'ils avaient réussi à faire un truc correct, ça aurait pu être très bien. Mais peut-être que Dominique n'est pas tout à fait prêt pour tenir un vrai match tag team de 15 minutes en étant là dès le début. Mais je sais pas. J'ai un truc un peu. Parce que du coup, il a quasiment pas catché non plus. Hein. Il gagne. Il n'a pas fait grand-chose, Dominique. Donc ça reste un peu étonnant. Je trouve.
Oui, puis je comprends pas c'est ça, ouais, je comprends pas le passage à tabac. En fait, ils auraient fait le 2 contre 2 dès le départ, m'aurait moins choqué, tu vois.
Bah ouais, je sais pas, ils ont sûrement, c'est sûrement pour en rajouter à la beauté de l'histoire, mais c'est un peu.
Tu dis sans public, ça fait peut-être pas le même effet. Et puis à la fin, genre pour des suiveurs assidus comme nous, on se dit, bah ouais, donc du coup, on sait comment ça va se terminer avant même que le match commence. Donc.
Ouais, je partage ta petite retenue, je serais content d'avoir dans les commentaires l'avis de notre tonton, voir s'il arrive à être lucide ou s'il est juste envahi par le bonheur.
Ouais, il sera juste envahi par le bonheur, vu son âge avancé, il ne peut plus être lucide.
Ouais, t'as raison, c'est une bonne analyse. Donc, peuple de catch-up, dans les commentaires, si vous êtes lucide, donnez-nous votre avis sur ce match, si vous avez enthousiasmé comme un dingue ou si vous êtes un peu plus mesuré sur la performance. Zygote, justement, en parlant d'être un peu plus mesuré, on va attaquer le match le match qui fait débat. Alors, comment raconter ça ? Figurez-vous qu'au dernier Raw, je crois, on a annoncé un match entre Le Miz et Damien Priest, et Damien Priest a gagné le choix de la stipu, et il avait choisi un Lumberjack match. Bon, ça nous avait un petit peu étonnés, on était avec Tonton d'ailleurs, n'hésitez pas à écouter l'analyse. On se disait, bon, Lumberjack match, c'est pas une stipu de fou. On se voyait déjà avec tout le locker room classique. Hein. On voyait les Drew Gulak et autres catcheurs de 205 ou de la ceinture 24-7 venir autour du ring. Bien, mais avant le match, on croise Le Miz et John Morrison dans les vestiaires. Et John Morrison, il dit, mais moi, je vais aller parler aux Lumberjack. Je vais aller les convaincre. Je vais aller leur dire qu'en gros, ils ont intérêt à t'aider, toi, Le Miz. Du coup, Morrison, il va voir... un magnifique vestiaire sur lequel est marqué sur la porte Lumberjack. Donc voilà, ils ont leur vestiaire propre. Et quand ils ouvrent la porte, eh ben, il y a une armée de zombies qui sort. 10 gens, morts vivants, voilà, vous avez vu les films, hein, Shaun of the Dead, Zombieland, tout ce que vous voulez, il y a des zombies. Alors des gens se disent, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, des zombies, bizarre, moi j'ai cru que c'était un gag ponctuel, mais qu'on allait avoir des vrais Lumberjack. Et puis... Puis en fait, avant le match, on découvre qu'il y a une pub pour le nouveau film de Batista, Batista tout en testostérone, qui joue dans un film qui s'appelle Army of the Dead, où il y a des zombies. Et Batista, il a tweeté qu'il pourrait pas être là à Backlash, mais que des amis à lui seraient là. Et donc, en fait, eh ben, effectivement, c'est bien des zombies, les Lumberjack. Donc le match commence, le Miz et Morrison arrivent, Damien Priest arrive, et le ring devient entouré de zombies. Qui sortent de partout, ils sortent même de sous la table des commentateurs, donc tous les commentateurs s'enfuient, y a de la fumée, ça a fait un peu l'ambiance, je sais pas si tu avais vu le match d'Halloween à Voc à NXT là, avec les copains de les zombies de comment il s'appelle Dexter Lumis, ça te dit quelque chose ce match?
Non, là comme ça, non, je l'ai pas vu, celui-là, ça me parle pas.
Bon, bref, il y a des zombies très maquillés, voilà, ils pendent, ils marchent, ils ont du sang, ils sont dégoulinants. Morrison, il fuit complètement, donc du coup, Le Miz, il se retrouve tout seul. Mais ça donne un match assez bizarre, puisque en fait les zombies, ils essayent d'attraper les pieds de chaque catcheur qui passe, hein. Ils n'ont pas du tout le rôle de lumberjack, puisque dès qu'il y en a un qui tombe à l'extérieur du ring, ils font rien, c'est des zombies très pacifiques finalement, ils se font juste maraver la gueule, un petit peu comme des... Ils m'ont fait penser aux ninjas de Tozawa, les pauvres, ils ont juste pris des pains dans la gueule finalement, les zombies. Il y a même un moment où Priest et le Miz, ils sont presque copains contre les zombies, tous les deux à l'extérieur du ring, ils tabassent des zombies. Morrison revient, il envoie des super kicks, il fait son Yamakasi sur les zombies. À un moment donné, il se met sur la barricade pour visiblement faire une sorte de Swanton Bomb ou je sais pas quoi sur un zombie, mais là, il se fait attraper les pieds par des zombies qui étaient derrière les barricades. Donc en fait, il disparaît. Là, on a une image de film de série Z classique où on voit le personnage qui tend la main vers l'extérieur, ouvre grand la bouche et les yeux, et puis hop, disparaît de l'écran, avalé par les zombies. Donc voilà, déjà, John Morrison va devenir zombie, visiblement. Et puis au final, pendant le match, voilà, Damian Priest finit par placer son Hit the Light sur le Miz, il gagne, et au moment où il gagne et que la cloche sonne, il s'enfuit du ring, Damian Priest, parce que tous les zombies gagnent le ring et se précipitent sur le corps du Miz, inanimé. Et là, on ne sait pas trop ce qu'ils lui font. Alors, ils sont pas allés jusqu'à nous faire croire que le Miz se faisait bouffer en nous mettant des morceaux de tripes et d'intestin. Et ça aurait été rigolo. Mais non, on ne saura pas ce qui est devenu le Miz. Mais voilà, les zombies ont envahi Backlash. Et puis après, ils sont repartis, comme si de rien n'était, visiblement. Zygote, qu'en as-tu pensé?
Okay. Comment te dire? Ça oui, effectivement, c'est un peu pour promouvoir du coup le film Army of the Dead avec Batista. Et tout au début du show, la vidéo promotionnelle est narrée par Batista lui-même d'ailleurs. Le côté zombie, je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais what the fuck? Je comprends pas. Enfin, je comprends le côté commercial, promotionnel pour vendre le côté publicitaire, hein, de la WWE pour vendre Army of the Dead. Après, d'avoir un combat avec ça, je ne sais pas. J'étais un peu perturbé. Autant l'ambiance, les écrans qui ont été un peu en ville post-apocalyptique, tout ça, je trouvais ça plutôt classe. Ça faisait beau. Visuellement, ça envoyait. Après, là, faut mettre sa crédulité de côté. Hein, c'est un peu compliqué, parce que je vois pas trop l'intérêt de zombies. Enfin, voilà, quitte à faire un lumberjack, ils auraient pu faire un lumberjack, du coup, avec les low-carders de la WWE, mais le truc marrant, c'est qu'au bout du compte, les zombies sont capables de monter les barrières de sécurité avant le match, mais ils sont incapables de monter autour du ring. C'est-à-dire qu'ils sont quand même assez intelligents parce qu'ils savent le concept du lumberjack. Ils disent, ah, on n'a pas le droit de monter sur le ring pendant le combat. Par contre, dès que le combat est terminé, on va pouvoir aller bouffer le corps inerte du Miz. Ouais, le match, voilà, je vais pas dire que j'ai été surpris, je me suis dit, bon, voilà, j'ai mis de côté en me disant que, voilà, c'est juste vraiment pour mettre en avant, hein, le film, mais ça m'a pas plus emballé que ça. Mais j'ai bon sur mon pronostic, parce que j'avais dit que Priest allait gagner.
Formidable. Ouais, moi je suis un peu partagé. Honnêtement, je vais pas défoncer. Je sais que certains parmi nous sur le Discord ou même sur la Twittosphère, ils parlent vraiment de grosse merde pour ce segment, hein, sans cacher la vérité des mots. Moi j'ai trouvé ça plutôt rigolo, surprenant. Enfin, en tout cas, vraiment ça sortait de nulle part et c'est fait pour faire le buzz et personne s'y attendait. Enfin voilà, on n'est pas à Halloween, on n'est pas dans un pay-per-view qui s'y prête, donc c'est d'autant plus étonnant, et donc c'est d'autant plus choquant, donc ça fait parler, je pense que c'était bien trouvé. Après, c'était un match secondaire qui pour moi était tout à fait passable, sachant que pour moi la feud elle était déjà trop longue. On a déjà eu Miz contre Priest, Morrison contre Priest, Handicap Match contre Damian Priest. Donc je me sens pas floué dans mon match en me disant ah merde, ils ont sacrifié le match juste pour faire la pub du film de Batista, parce que bon, le match est sacrifié, il s'est rien passé, il n'y a pas de move spectaculaire, pardon. Mais ça me... Bon, honnêtement, c'est pas un grand scandale, je trouve. C'était plutôt bien exécuté. Enfin, je trouve que les zombies étaient plutôt bien faits, d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Bonne troupe d'acteurs. Et après, la question que j'ai, c'est est-ce qu'ils vont l'assumer? Genre, est-ce qu'à Raw, on va nous dire que le Miz a été bouffé, ou Morrison et tout ça, et qu'on va revoir des images? Ou est-ce que à Raw, le Miz et Morrison vont revenir comme une fleur, comme si de rien n'était, comme ils font à la WWE, hein, comme quand Daniel Bryan avait été enlevé par la Wyatt Family, et puis qu'une semaine plus tard, il était de retour, comme si de rien n'était? Je sais pas. C'était une sorte de comédie cinématique wrestling inattendue, mais honnêtement, finalement, entre ce moment choquant qui fait grand débat et si on avait eu un match Lumberjack classique avec les Lumberjack classiques de la low-card et Damien Priest qui gagne, et un truc hyper classique, au final, ça aurait été pas passionnant non plus, je pense. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas?
C'est juste pour mettre, bon voilà, comme on dit, c'était pour mettre le film en avant. Et après, comme on dit toujours, en parler bien ou ne pas en parler, enfin d'en parler en mal ou en bien, l'essentiel c'est d'en parler. Et je pense qu'à travers tous les réseaux sociaux et autres, ça a fait parler. Donc est-ce qu'au bout du compte, c'était pas l'effet recherché également?
Oh bah, je pense que oui, là. L'effet est réussi sur ce point-là. Et puis après, bah, Damien Priest, on lui souhaite un peu plus de choses dans les mois, dans les semaines à venir, mais c'est vrai que je pense qu'il a, il est temps de. Pardon.
Non, vas-y, tu vois.
Ouais, il est temps de tourner la page de la rivalité avec le Miz, là, je pense, hein.
Oui, bon là, ça commence à faire un moment qu'on, voilà, comme tu disais, qu'on commence à se les coltiner tous les trois ensemble. Il est temps de passer à autre chose. On a l'impression aussi que The Miz et John Morrison, ça commence peut-être à avoir un petit peu anguille sous roche. Donc, je ne sais pas s'ils vont pas tarder à splitter. Et puis, même si je ne suis pas un fan de Priest, sur le ring, c'est plutôt propre. Et ce qui pourrait pas aller titiller Sheamus à l'avenir.
Ouais, c'est ce qu'on espérait avec Tonton. Sheamus, il a l'air d'être encore un peu dans la catégorie des poids légers là, entre Carillo, Mansour et Ricochet, mais il va lui falloir un petit peu de viande à un moment donné. Quand
Et
même.
puis je pense que après Damien Priest, il y a ce qu'il faut et ça peut donner un bon petit combat bien stiff comme on les aime avec Sheamus. Donc à voir, surprise. Après, est-ce que ça serait pas trop tôt pour une ceinture? Faut voir aussi.
Peut-être, peut-être. On verra ce qu'il en retourne dans les semaines à venir. Bon, en tout cas, là, je pense que cette histoire de zombies, on les reverra plus. C'était juste l'occasion d'un soir, j'espère. Nous continuons la soirée sans transition avec le titre féminin de SmackDown, donc la nouvelle star de la WWE, la gagnante du Royal Rumble, la championne, la EST Bianca Belair qui affronte Bayley. Bayley, voilà, qui revient un peu. Aux sources autour de son titre favori qu'elle a porté si longtemps. Un match où Bianca Belair est bookée très costaud, à nouveau comme toujours, hein, notamment au début. Elle domine vraiment le match dans les premiers instants. Elle soulève Bayley pour lui faire une superplexe depuis le turnbuckle. Mais Bayley réussit à reprendre l'avantage, alors plutôt avec le vice, hein, notamment à l'extérieur du ring. Elle va écraser Bianca Belair en la jetant sur les escaliers. Il y a une petite phase à l'extérieur comme ça où ça enchaîne. Bayley à un moment donné a fait un suicide dive que Bianca Belair évite. Donc Bayley elle s'écrase l'épaule la première à l'extérieur du ring. Bayley a joué toujours le vice. Elle va mettre ses doigts dans les yeux de Bianca Belair. Elle va lui tirer les cheveux. Et alors Bianca ça l'énerve. Elle lui dit pas les cheveux, touche pas à mes cheveux. Et finalement ça va être finalement la perte de Bayley. Puisqu'à un moment donné Belair lui tente une sorte de roll-up. Et en plus tient le pied de Bayley. Avec sa queue de cheval, avec sa natte, pour l'empêcher de kick out. Alors malheureusement, c'est un peu botché, parce que le pied de Bayley il glisse, et puis retombe, et puis il le récupère. Mais ça sera quand même le move de la victoire. Donc Bianca Belair, comme Rhea Ripley un peu avant, conserve son titre en 16 minutes 04. Match solide. Qu'est-ce que t'en as pensé, Zygote?
Les quatre choses, c'était prévisible que ça allait être plus que correct sur le ring. Après, comme je vais encore faire partie des détracteurs, je ne suis pas un fan du personnage de Bianca Belair, mais sur le ring, oui, c'est sûr que ça va être propre. Belair, j'ai appris à apprécier son personnage depuis qu'elle a tourné Heel l'année dernière, si je dis pas de bêtises, voir si c'est pas un peu plus vieux. Et oui, effectivement, c'est deux catcheuses qui savent ce qu'elles font. Le match était propre et la victoire de Belair était pour moi assez évidente parce que je ne voyais pas pourquoi Belair aurait gagné. Je pense que Belair est plus là pour mettre en avant Belair pour la suite de sa carrière de championne. Il y aura sûrement un match revanche. Je la vois pas s'arrêter tout de suite. Comment dire? Je la vois pas s'arrêter tout de suite sur un match avec Bayley. Après, à voir aussi, parce que du coup, Sasha Banks est un peu aux abonnés absents. Donc, on pourrait voir ce que ça peut donner peut-être au prochain SmackDown si Sasha va revenir ou peut-être un triple threat entre les trois pour être fort sympathique.
Oui, complètement disparu, Sasha Banks. Moi, je suis comme toi, j'avais pas trop de suspense sur le match. En plus, finalement, c'est assez récent, parce que je sais pas si tu te souviens, mais Bianca Belair, quand elle est arrivée, c'était sa première fun hein, contre Bayley, la fameuse époque où il fallait soulever Otis là, et faire le saut d'obstacle et tout. C'est
Oh
formidable.
oui, j'avais oublié. Pardon.
Voilà. Donc, elles se connaissent bien, et puis Bianca avait gagné déjà à l'époque, donc je voyais pas pourquoi 6 mois plus tard, Bayley allait inverser le sujet. Moi, j'ai trouvé le match solide, mais effectivement, là encore, pas trop de suspense. Et puis, dommage que le finisher était un petit peu raté, parce que l'idée était rigolote, mais ça a pas trop bien donné, j'ai trouvé. Mais tu me fais penser à quelque chose qu'on va évoquer juste maintenant, on va débattre un petit peu. Tu parlais de rematch. Bah, durant Backlash, on nous a annoncé que le 20 juin, nous aurons le prochain pay-per-view de la WWE. Et ben, figurez-vous, peuple de ketchup, que le prochain pay-per-view, c'est pas Money in the Bank, c'est pas Extreme Rules comme on a l'habitude en mai-juin. C'est Hell in a Cell. On va retrouver Hell in a Cell alors qu'on l'a d'habitude en septembre. Ça fait peut-être 10 ans que Hell in a Cell s'est à peu près casé en septembre. Ben moi j'étais très surpris. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je me suis dit qu'en général, quand la WWE bouge un show habituellement placé, ça m'a fait penser à l'an dernier quand ils avaient casé un pay-per-view 15 jours après SummerSlam, là je sais même plus comment il s'appelait. Ben c'était pour faire revenir Roman Reigns qui avait battu Bray Wyatt et Braun Strowman. Donc je me dis, si ils font ce si gros changement, c'est qu'il y a une idée derrière la tête, il va y avoir un gros truc. Est-ce que c'est rapport avec le fait qu'ils font ça sans public? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu es surpris de ce
Oui, plutôt
choix?
parce qu'on est quand même assez habitué. Enfin, la WWE, ils sont quand même assez. Tous les ans, il reste à peu près tel show à telle date. Ça leur arrive de changer, peut-être d'un mois ou deux, mais là, j'avoue que le changement est quand même assez décalé depuis plusieurs mois. Alors, ouais, est-ce que ce serait pas pour décaler le Money in the Bank avec du public? J'avoue que le Money in the Bank avec public, c'est quand même vachement plus sympa que sans public. Hein. On peut essayer de se rappeler du MITB l'année dernière, qui avait de bonnes idées, mais sans public à la fin, c'est pas terrible, décrocher une mallette sans rien autour. Et bon après Hell in a Cell, hein, là d'un point de vue personnel, les pay-per-view à thème, je suis pas forcément fan non plus. Hell in a Cell devrait être une finalité dans une feud et non une spécialité thématique d'un pay-per-view.
Ah ça, je suis bien d'accord avec toi. Moi, c'est ma grande déception. Quand j'ai commencé à être fan de catch, le Hell in a Cell, c'était vraiment le truc avec Vince McMahon qui débarque ou Vicky Guerrero quand deux mecs se détestent et qui dit « Hey, you're going to fight in a Hell in a Cell! » Et là, t'as la grosse pop. Alors, c'était Edge et l'Undertaker à l'époque ou je sais plus qui.
Voilà, c'est des enfin voilà, moi c'est des trucs qu'il faut que ça Royal Rumble d'accord, Survivor Series 55 OK, WrestleMania gros match, Money in the Bank à limite la stipulation est particulière du combat donc on peut comprendre pourquoi à limite il y a un thème qui est un pay-per-view attitré pour le Money in the Bank mais ouais le Hell in a Cell ou comme le Elimination Chamber, tu vois. Pour moi c'est vraiment une fin et à la fin il y a le manager général comme tu dis qui dit allez bah, vous savez quoi genre, j'en ai marre de vous, là, les 6, là, allez hop, je vous mets tous dans un combat, vous allez tous vous mettre sur la gueule, et voilà, celui qui gagne, hop, il sera le champion, il l'aura mérité. Tandis que si tu sais que le pay-per-view va arriver, ben, ça baisse en intensité dans une phase, je trouve.
Mais en fait, ça n'existe plus. Il n'y a plus vraiment un match qui est un peu ce match boss final. Pour moi, avant, c'était ça. C'était le Hell in a Cell où on disait vraiment, vous vous détestez. Allez hop, Hell in a Cell. Et là, comme tu dis, c'est devenu un rendez-vous. Ils ont un peu, à mon avis, fait ce choix aussi à NXT pour les War Games. Où quand on a eu le premier ou le deuxième, où on dit War Games, t'es comme un fou. Puis après, tu dis, bon, allez, c'est novembre, il va y avoir un War Games. Donc tu devines un petit peu que ça va se préparer. C'est un peu dommage. Et là, ouais, là en plus, le dernier est pas si vieux, quoi. Alors, moi, je me suis demandé si c'est pas pour. On va en parler plus tard parce qu'on n'est pas encore. D'ailleurs, je vais spoiler un petit peu, mais j'imagine si vous nous écoutez, vous avez peut-être déjà vu le show. Je me suis demandé si c'était pas pour faire assez vite un Roman Reigns, Jimmy Uso en Hell in a Cell, comme ils ont fait Reigns, Jey Uso en septembre. Je sais pas. On va voir
Bonne
ça dans les
question.
prochaines semaines.
C'est une bonne question, je ne sais pas. Oui, faut puis avoir aussi ce que va donner. Enfin voilà, est-ce que intervention ou pas des frères lors du main event ou avoir.
À voir. On saura peut-être qu'est-ce qui a motivé cette décision, mais pour le moment, c'est un peu la surprise. Mais on sera là, peuple de ketchup, pour Hell in a Cell, évidemment. Allez, il nous reste deux matchs, les deux gros matchs de titans. Donc, on en a un peu parlé, les matchs masculins. Le premier, ce sera pour le titre WWE. Alors, moi, surprise, parce que je m'attendais à ce que ça soit ça le main event. Le Triple Threat, l'équivalent de ce qu'il y a eu pour Raw chez les filles un peu plus tôt. Donc, Bobby Lashley, le champion, contre Braun Strowman, contre Drew McIntyre. Donc, là, évidemment, énorme avis, énorme match de bonhomme. Clash de titans avec Drew et Bobby qui d'abord se mettent à deux hein, pour travailler Braun Strowman. Ils lui font notamment une double verticale souplex monstrueuse. Braun Strowman qui leur rend un petit peu l'appareil quand ils sont à l'extérieur du ring en faisant une senton bomb. Là, il fait, je crois que je ne l'avais jamais vu faire ça. Senton bomb sur les deux depuis le turnbuckle. Enfin, pas depuis le turnbuckle, depuis le rebord du ring. Il se projette, il tombe, il se catapulte. Très spectaculaire. On a un long moment où on part à l'extérieur du ring, Braun Strowman il est un peu out, il y a eu des coups avec les escaliers, tout ça, Bobby Lashley et Drew McIntyre ils se tapent sur la gueule, Drew prend des gros coups, il est envoyé dans les projecteurs, enfin il est envoyé sur les écrans là sous le titantron, mais finalement c'est lui, c'est bien l'écossais qui va envoyer Bobby Lashley dans dans la catégorie projecteur, et donc là Bobby Lashley chute. Et fusé, ça part dans tous les sens, il prend court-circuit, court-jus, tout ce que vous voulez, on le voit plus, voilà, Bobby Lashley a disparu dans les abysses, dans les tréfonds du Thunderdome, MVP évidemment est affolé. Braun Strowman à ce moment-là revient, vient chercher Drew McIntyre, le ramène sur le ring, Drew McIntyre va réussir à faire un énorme body slam à Braun Strowman, alors là, respect mec, parce que ça, il faut y arriver. Braun Strowman lui va faire une powerbomb à Drew McIntyre sur la table des commentateurs, donc on est vraiment dans de la destruction totale. On remonte sur le ring, Braun Strowman a l'air très fort hein, il a l'air d'avoir le match en main, mais il encaisse un claymore par surprise, et à ce moment-là Bobby Lashley revient du néant à toute vitesse, envoie Drew McIntyre dehors, porte un spear à Braun Strowman, et là ça fait quand même beaucoup pour le géant. 1, 2, 3, Bobby Lashley remporte le match. Mais on ne peut pas dire que ses adversaires aient démérité quand même. Qu'est-ce que tu en penses de cet affrontement? 14 minutes 16, hein, c'est un des plus. C'est le match le plus court de la soirée si on ne compte pas le Lumberjack match, mais court mais intense.
Complètement. Là, qu'est-ce qu'ils se sont mis sur la gueule? Complètement. J'attendais qu'une chose de ce match. Et en fait, j'ai vu ce que j'avais envie de voir, ce qu'ils m'ont vendu. C'est de la bagarre de colosse, ils se sont défoncés tous les uns les autres, ils ont fait voir plus de puissance que ce qu'ils peuvent. Enfin, en gros, c'est celui qui a la plus grosse, hein, concrètement, hein, ce combat. Et ouais, le combat, moi, j'étais vachement hypé, très emballé tout du long. J'ai pas vu le temps passer, je t'avouerai que c'est un petit quart d'heure qui est passé. Tout seul, pareil, comme certains combats, j'aurais bien voulu en reprendre pour quelques minutes de plus. Et encore une fois, j'ai gagné mon prono et ça s'est confirmé quand Bobby Lashley s'est fait envoyer dans le décor en dessous du titantron où je me suis dit, pareil combien, il va revenir comme une fleur à la fin après une attaque de Strowman ou de Drew. Et ça n'a pas loupé. Et du coup, Lashley conserve et tant mieux dans un sens que je pense qu'il a encore besoin. Il faut le laisser encore champion quelques semaines, voire mois, après à voir si la feud continue entre les trois ou si ça va être que entre un des deux, je ne sais pas.
Ouais, moi j'ai beaucoup aimé l'affrontement, également promesse remplie, et pour le coup j'étais très content de la feud. J'ai trouvé que les trois ils avaient fait des très gros matchs et des très gros segments ces dernières semaines à Raw. Le main event avait souvent sauvé le show, et là j'ai eu ce qu'il fallait. J'en aurais bien pris un petit peu plus aussi. Sauf peut-être effectivement le segment post-destruction de Bobby Lashley où j'ai trouvé que c'était un peu long là. Drew McIntyre il a attendu Braun un petit moment, je sais pas si t'as remarqué ça. Une fois qu'il avait projeté Bobby dans les projecteurs, il a un peu tourné en rond pendant 30 secondes, je dirais, il savait plus trop quoi faire. Mais sinon c'était un très bel affrontement. Je l'ai dit en description, mais je le redis, que Drew McIntyre soulève Braun Strowman et le retourne comme ça, comme une crêpe sur le ring, ça m'a hyper impressionné. J'ai trouvé que, on regarde aussi le catch pour ça, et c'était impressionnant sur beaucoup de moves, et de la viande, quoi, comme dirait Tonton. Moi, honnêtement, quand Bobby Lashley a disparu, j'ai cru un instant au changement de titre. J'ai trouvé Braun Strowman très, très mis en avant, très, très fort, et je me suis dit, est-ce que c'est pas son moment, sachant que Bobby Lashley, comme tous les heels, a beaucoup raconté, ouais, mais si je perds, je peux être... je peux être battu sans avoir été vraiment battu si c'est pas moi à qui on porte le pin. Donc je me suis dit peut-être que c'est ça qui va se passer, qu'on va avoir un nouveau champion, mais que Lashley va revenir en disant ouais, c'est pas moi qui ai été battu. Après, plus ça a duré, plus je me suis dit bon, il va finir par revenir, et effectivement, ce fut le cas. Moi, j'ai trouvé que l'affrontement était très fort. Mais pour répondre à ta dernière remarque sur le futur, je suis tout à fait convaincu par Strowman. Moi, je suis un plutôt gros fan de Braun Strowman sur ce qu'il fait là depuis qu'il est revenu en forme depuis le début de l'année, là, avec son match contre Shane McMahon. Donc moi, je ne serais pas déçu si justement on a un Hell in a Cell, Braun Strowman contre Bobby Lashley, et qui devient champion dans cette configuration. Je pense que Drew McIntyre, là, je ne sais pas ce que t'en dis, mais il est peut-être temps de tourner momentanément la page Title Picture, et puis qui se trouve une autre feud éventuellement, mais en tout cas il aura fait du bon boulot encore une fois, et ce soir et depuis des semaines.
Oui, c'est clair. Après Drew McIntyre, oui, ça fait, il est dans la Title Picture depuis WrestleMania, enfin l'année dernière, du coup, depuis qu'il a gagné, qu'il a battu Brock Lesnar. Il a fait une année complète une année complète en étant champion, si je dis pas de bêtises. Il a perdu, il a gagné à WrestleMania pour perdre et il a perdu contre il a perdu contre Lashley à WrestleMania, c'est ça? Je dis pas de bêtises.
Ah si mon petit Zygote, si tu dis des bêtises, il a eu le cash-in du Miz, et puis avant
j'ai oublié.
Souviens-toi, il a lâché 15 petites journées, je pense, après le Hell in a Cell à Randy Orton pour le récupérer très vite. Mais bon, il a été champion quasiment toute une année, oui, effectivement.
Ça, et oui, il est temps de passer à autre chose. Il reviendra, je m'inquiète pas pour lui, il retrouvera autre chose. Ou même peut-être prendre un titre inférieur, hein, plus tard, un titre US, ou éventuellement de partir de l'autre côté et d'aller se refriter avec Roman Reigns pour faire une deuxième confrontation après celle des Survivor Series. Et Strowman, moi, c'est... pas autant que toi, fan de lui, mais c'est par période. Je trouve qu'il a du mal à rester tout en haut. Alors, il n'a jamais eu de chance non plus. Il a été beaucoup blessé. Ce qui, à chaque coup où il a eu l'opportunité, il s'est retrouvé blessé. Là, le Strowman qu'on voit là, c'est le Strowman que j'ai vu dans sa longue feud avec Reigns, là où il s'en mettait plein la gueule toutes les semaines. Où c'est ce genre de Strowman que je veux voir, ce Strowman destructeur, pas le Strowman qui veut se friter avec Shane McMahon, qui le traite de débile, et du coup... mais là, c'est ce que j'aime voir, mais Bobby Lashley ne restera pas champion éternellement, ça c'est sûr. Après, est-ce que Strowman Lashley en Hell in a Cell? Oui, ça peut être carrément tentant à voir. Est-ce que j'ai envie de voir Strowman champion? Je ne suis pas totalement sûr non plus.
D'accord, ouais, tu vois, moi je suis plutôt favorable, parce que justement, je trouve que Strowman a eu une carrière, comme tu l'as dit, un peu en dents de scie. D'ailleurs... c'est ce que Drew lui avait dit il y a quelques semaines dans les coulisses, là, que toi, tu devrais être 20 fois champion du monde et t'as quasiment pas de palmarès. Et je trouve qu'ils ont souvent raté le coche avec Strowman. Alors, comme tu l'as dit, il y a eu des blessures, mais il y a eu des moments où il avait des gros momentum, notamment cette fameuse période où il était au top contre Reigns, et on lui a rien donné, en fait, de prestigieux. Parce que je crois que le premier titre de Strowman à la WWE, c'était quand même le titre tag team avec le petit Nicolas là, de 10 ans. Et là, je trouve qu'il est quand même dans un très très gros momentum, et qu'il finisse ça, disons, dans un mois ou deux ou trois, sans avoir eu la ceinture. Je trouve que c'est dommage. Je pense que Drew était excellent en champion, mais on a tous senti que Bobby Lashley était en train de monter en puissance, et le switch a été assez logique. Là, moi, je sens un peu la même chose. Je sens qu'il faudrait un switch assez logique en faveur de Strowman dans les semaines à venir, mais... de toute façon, on a encore sûrement des belles interactions de gros Golgoth entre tous ces mecs-là, donc ça continue, moi, de me satisfaire ce main event, ce plateau main event de Monday Night Raw. Voilà. Eh bien, Zygote, nous arrivons au main event.
C'est fait.
Est-ce que t'es prêt pour ton premier main event de pay-per-view?
Vu ce que tu vas raconter, vu ce que ça a donné, oui, je suis prêt.
Eh bien, c'est parti. Alors, le main event, c'est toujours et encore Roman Reigns, puisque quand il est là, c'est lui qui fait le main event, on le sait. Roman Reigns qui affronte Cesaro en solo, premier, tu vois, vous êtes pareil, hein, finalement, avec Cesaro, premier main event de pay-per-view, premier title shot pour le Suisse. Je vais pas tout redétailler la feud, voilà, il a lui aussi monté en puissance avant WrestleMania, et puis bien aidé par Daniel Bryan, voilà, il s'est installé en tant que challenger numéro 1. Roman Reigns, lui, qui a des petits conflits avec les Uso, puisque Jimmy Uso, il est pas content que son frère serve de larbin, et du coup, avant que le match commence, Reigns, il dit à Jey Uso, va chercher ton cousin, enfin, cherche ton frère, démerde-toi avec lui, mais je te veux pas au bord du ring. Clairement, Roman Reigns, il n'a pas envie d'être aidé ce soir. Donc, il y va tout seul contre Cesaro. Prise de risque parce que Cesaro a été énorme. Alors, on va en discuter, mais moi, je trouve qu'ils lui ont donné ce qu'on voulait qu'il lui donne depuis 10 ans, c'est-à-dire il a été hyper dominateur. Alors c'est difficile à décrire parce que Cesaro c'est du catch technique, hein, donc il y a uppercut dans tous les sens, il fait un dive par-dessus la troisième corde sur Reigns qui est dehors, des superplex notamment. Ouais, voilà, il y a un moment où il chope Roman Reigns qui est à l'extérieur des cordes mais sur le rebord du ring, et hop, il lui fait hop une superplex à l'intérieur du ring. Voilà, quand on voit le poids de Roman Reigns par rapport à Cesaro, c'est assez impressionnant. Il tente des sharpshooters, des soumissions, tout ce que tu veux. Malheureusement, il se fait mal au bras et Roman Reigns va longtemps travailler le bras de Cesaro en le tordant dans diverses possibilités, en lui faisant taper le poteau, en lui faisant des kicks, des gros coups de pied, des gros big boots sur le bras, sur le poteau. Il va même, à un moment donné du match, s'adresser directement à Daniel Bryan. Moi, ça m'a un petit peu surpris. Hein, Roman Reigns, face caméra, là, il torture le bras de Cesaro et lui dit « Alors, DB, il appelle DB, Daniel Bryan. Alors, DB, regarde bien, tu regardes ça depuis ta télé, qu'est-ce que t'en penses ?» et tout. Il torture beaucoup Cesaro. De toute façon, Reigns, depuis qu'il est heel, il parle beaucoup hein, quand il catch, il trash talk. Cesaro va quand même réussir plusieurs coups de maître pour se sortir de l'impasse. Il va faire... Il va piquer un peu des prises aux copains. Hein. À un moment, il fait un double stamp là, un peu à la Finn Balor sur le torse de Roman Reigns. Il réussira jamais à passer le Cesaro swing. Hein. Il va pas faire tourner Reigns. Il va pas non plus réussir à placer le neutralizer de mémoire. Ah, il en place peut-être un qui fait near fall. Je crois pas, non. Je
sais pas. Ça me parle pas non plus. Je vais pas le souvenir.
Non, je pense pas. Mais à un moment donné, il se fait coincer dans la guillotine de Roman Reigns, la fameuse prise de soumission. Alors il s'en sort, il réussit à faire une sorte de power slam pour contrer, pour taper Roman Reigns, mais Reigns il lâche pas, il tient sa guillotine. Cesaro tente tout ce qui est en son pouvoir, mais il va finir par perdre connaissance, et donc il ne tape pas, mais il s'évanouit, et l'arbitre sonne la fin du combat. 27 minutes 30 de match, mais c'est finalement Roman Reigns qui gagne, et qui reste champion. Aux dépens du pauvre Suisse qui aurait été bien valeureux, mais on n'en finit pas là parce que Jey Uso débarque. Alors Jimmy, visiblement, il est pas du tout dans le coin. Jey Uso débarque et il veut s'en prendre à Cesaro. Hein, il dit à Roman Reigns, vas-y, c'est à moi, maintenant je m'en occupe. Sauf que soudainement retentit la musique de Seth Rollins. Seth Rollins qu'on n'avait pas trop entendu ces dernières semaines et qui a fait petite soirée ce soir-là. Il n'avait pas de match prévu. Rollins débarque, Burn It Down, avec une magnifique chemise, encore une fois, désigual, colorée, tout ce que vous voulez. Tout en blanc avec des taches partout. Et il monte sur le ring, il toise Roman Reigns. Moi, pendant un quart de seconde, je me suis dit, putain, ça y est, en fait, on va avoir une feud Reigns-Rollins. En fait, c'est ça qu'on va avoir à Hell in a Cell. Mais ça n'a pas l'air parti pour, puisqu'en fait, Rollins, il se détourne vite fait de Roman Reigns et il attaque Cesaro. Voilà. On reprend cette feud qui date depuis WrestleMania. Il attaque Cesaro. Il lui dit, mais t'es qui pour croire que tu m'as battu? C'est moi qui décide quand est-ce qu'on en finit. On n'en a pas fini. Le tabasse. Il lui démolit le bras en lui coinçant le bras dans les chaises, enfin les moves classiques que font les heels pour blesser leur adversaire. Il lui place un curb stomp et il finit là-dessus. Donc Rollins. On finit sur une fin de pay-per-view où le pauvre Suisse aura quand même bien pris cher. Mais est-ce que finalement, voilà, ce main event Cesaro, est-ce qu'il a tenu ses promesses? Zygote, qu'est-ce que tu as pensé de cet affrontement?
Il a plus que tenu ses promesses. Comme tu disais tout à l'heure, on n'en entendait pas moins d'un combat entre les deux et. Là, ouais, je suis resté, j'ai fait « Waouh !» Et j'ai cru, à un moment donné du combat, que Cesaro avait une infime chance de gagner. Il n'a pas démérité. Reigns a délivré tout son arsenal pour le mettre à terre, pour le faire abandonner et tout ça. Et Cesaro, ah non, il abandonne pas, il abandonne pas, il abandonne pas, il abandonne pas. Et malheureusement, il perd à la fin. Mais quel combat, quel main event! Je serais un peu plus nuancé sur ce qui s'est passé après, parce que du coup, ça ne s'est pas passé comme je le pensais. Parce que moi, je pensais que j'avais juste terminé le show, victoire de Reigns, et puis ça n'allait pas aller plus loin. L'intervention de Jey, je trouvais ça, je sais pas, j'ai pas trop compris l'intérêt, parce que c'est déjà un peu ce qui se passait. Surtout qu'il n'y a pas d'intervention de Jimmy, vu que ces dernières semaines à SmackDown, on est un peu sur l'histoire des des cousins, les frères Rousseau, où ça se chamaille un peu entre les trois. Et là, au bout du compte, Jimmy, on l'a vu qu'au début, mais on ne le revoit pas à la fin. Et il fait comme toi, je vois Seth Rollins arriver. J'ai cru, à l'instant aussi, qu'on allait avoir Rollins qui allait éventuellement turner face pour mettre un beau petit curb stomp de derrière les fagots à Reigns, mais pas du tout. Du coup, ils reprennent la feu, double s'est arrêté avec Cesaro. Ça ne me déplaît pas, mais ça veut sûrement dire que Cesaro n'aura pas de match revanche contre Reigns, vu comment c'est amené, je trouve, à cette fin de show.
Ouais, moi j'ai trouvé que la performance du match était effectivement énorme. Moi j'ai cru, hein, vraiment, il m'a paru tellement dominateur, Cesaro. Et puis bah, il faut bien dire, hein, dans le catch, il faut être deux, donc Reigns a très bien joué le jeu. Je me suis dit, bah si, en fait, peut-être que Roman Reigns il va être complètement surclassé. Surtout en étant solo sans Jey Uso, et que du coup on va nous raconter ensuite une histoire de Roman Reigns qui a été trop vaniteux, qui a trop cru, mais qui en fait, bah, du coup Jimmy pourra dire « Ah oui, mais il avait besoin de toi, tu vois bien qu'il ne peut pas gagner sans toi, Jey. » Enfin, je m'étais fait le film. Bon, finalement, ce n'était pas le bon film, mais l'affrontement m'a quand même énormément plu, et honnêtement, s'il y avait des suiveurs sceptiques ou au sein de la WWE dans l'entreprise, que ce soit Vince McMahon ou je ne sais pas qui n'était pas certain du potentiel de Cesaro, je pense que là, depuis 2 mois, il a complètement répondu à nos attentes. Et sur ce match-là, il a été monstrueux. Mais bon, chapeau aussi à Roman Reigns qui, depuis des mois, quand même, que ce soit contre Kevin Owens, Daniel Bryan ou autre, fait des très grosses performances. Mais bah, comme toi, en fait, même sentiment. Fin de match où finalement, le Suisse se fait un peu lessiver. Par Rollins qui a déjà perdu 2 fois. Pourquoi revenir là-dessus ? Ça me fait un peu l'impression que Rollins, il ne sait pas finir ses feuds. C'est comme la feud avec Mysterio, là, ça dure depuis longtemps. Et ouais, si Cesaro revient contre Rollins, ça fait un petit retour en arrière. Après, tout est possible, hein, puisqu'on a vu que Rollins et Cesaro ont eu leur match revanche à SmackDown. Donc on peut avoir encore un match à SmackDown et un match quand même en pay-per-view, en Hell in a Cell, je ne sais pas, mais ça reste un peu étonnant, oui, cette fin de show où il a l'air quand même vachement rabaissé, Cesaro, après avoir fait une énorme perf. Donc je suis un peu mitigé sur cette fin de show, mais main event de quasiment 30 minutes, donc grosse session de grosse leçon de catch, belle performance, et n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu ce match, à en profiter, ouais.
C'est clair. Et encore, en plus, j'avais pronostiqué la victoire de Reigns, mais pendant le combat, je me suis dit, ah, peut-être que Reigns va perdre avec les interventions de Jey et Jimmy. Ouais, je pensais qu'il allait y avoir un truc dans le genre, et en fait, bah, non. Mais à la fin, j'ai gagné ma séance de pronostics. Tous les résultats sont bons.
Ah, ben voilà, perfect pour Zygote. Eh ben, félicitations. Comme ça, c'est bien, tu peux le dire à l'écran.
Merci, en plus. Merci.
Ouais, ben moi je suis pas mécontent, ça aurait pu être une possibilité, mais que ce match très wrestling style soit clean en fait et finisse sans intervention, super kick d'un Uso pendant que l'arbitre regarde pas, tout ça aurait pu être un main event très comment on appelle ça déjà, ah merde, j'ai perdu mon terme,
clean intervention,
ouais overbooking, ouais voilà,
trop overbooking.
Mais non, donc c'est pas plus mal. Et ça a bien fini, je trouve, un show qui a été relativement solide. Alors, ça va être le moment du mot de la fin, Zygote. Je vais te laisser la parole pour ton top, ton flop et ta note. Et ensuite, nous lirons ce que nous a laissé Papy, qui nous a laissé son petit avis en commentaire sur Discord. Mais honneur aux petits nouveaux, honneur aux débutants. Voilà, premier pay-per-view, ça sera WrestleMania Backlash. Tu t'en souviendras toute ta vie, Zygote. Alors, je te laisse nous dire ce que tu en as pensé.
Flop, je vais donner ça au délire zombie dans le match Damien Priest The Miz. Bon, j'ai pas été choqué plus que ça m'a pas déplu, mais si je dois donner un flop sur tout show, c'est celui qui va ressortir. Après le top, c'est une bonne question. Le top, non, c'est même pas une bonne question. Hein. Ça va être le match Cesaro contre Reigns. Même si le main event des 3 Golgoth du Triple Threat d'avant mérite aussi un top, mais non, là Cesaro, pour ce qu'il a démontré sur le ring, enfin pour nous les suiveurs depuis très longtemps, on sait ce que vaut Cesaro, et là ouais, ils ont, que ce soit Reigns ou lui, ont délivré la marchandise. Je suis bien resté sur le très 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 accroché au main event. Ils ont fait voir leur plus belle partition de catch. Et je donnerai comme note, je vais être généreux, je vais donner, enfin généreux, façon de parler, 3,5 sur 5 pour ce pay-per-view. J'ai eu une très bonne impression. À part le poste sans peut-être intervention de Rollins, après, il aurait peut-être pu avoir un 3,75 comme tu me les aimes, Rafa.
Très bien, effectivement. Effectivement, plutôt bonne note. Moi, je vais avoir du mal à décerner un flop et un top. Ce qu'on va faire, c'est que comme tu en as, voilà, tu avais les tiens, je vais essayer de changer un peu le sujet, même si j'aurais pu dire les mêmes, hein, le flop aux zombies et le top au main event. Du coup, pour changer un peu, moi, je vais donner mon flop au scénario du match tag team qui était un peu trop long. Désolé pour Tonton si tu m'écoutes, mais un peu trop long, un peu trop prévisible, un petit peu trop tiré sur la corde des underdogs, père et fils. Je trouvais que c'était pas nécessaire. Et du coup, ça m'a, pour moi, qui suis tout à fait fan des histoires racontées dans le catch et qui aurait pu être totalement emballé par la victoire du père et du fils, j'ai trouvé que ça arrivait peut-être un peu trop vite, un peu trop comme ça, un peu trop... presque en weekly, bon c'était pas un weekly, mais presque un peu en milieu de tableau secondaire, et c'est un peu dommage. Et le top, du coup, si on le met pas à Cesaro et Reigns qui le méritent, je vais le mettre au deuxième match, parce que j'ai beaucoup aimé l'autre match champion du monde, Braun Strowman, Bobby Lashley et Drew McIntyre, pour cette belle distribution de testostérone. Et moi je vais mettre 3,5, effectivement. Je trouvais qu'il y avait de la solidité dans les matchs, mais que globalement, bah d'ailleurs... moi aussi, je crois que j'ai quasiment tout bien pronostiqué. Je trouve qu'il y a un petit manque de surprise. Et on sort de ce pay-per-view. C'est pas trop avancé grand-chose, finalement, je trouve. Rhea Ripley, Bianca Belair, toujours championne. Bobby Lashley, Roman Reigns, toujours costaud. Bon, ok, mais ça, c'est pas un pay-per-view révolutionnaire. Alors peut-être que Hell in a Cell va changer la donne. Et ça manque d'un peu plus de folie, j'ai trouvé. Et notre ami Papy. Alors Papy, lui, il a un peu changé l'ambiance. Il met son top à Bianca contre Bayley. Voilà, il a bien aimé. Belle histoire entre les cornes, nous dit-il. Et le flop pour le pay-per-view au Thunderdome. Hein, c'est ce qui lui a pas plu, hein, Papy. Il dit bon show sans être extraordinaire, mais il s'est pas enflammé. La faute à un pay-per-view sans public, ça fait mal après WrestleMania. Et absence de trucs vraiment passionnants. Alors Papy, lui, il aime pas trop le fait que Reigns soit trop dans les histoires de ses cousins pendant que Cesaro sur Rollins. Donc... il se demande même si c'était digne d'un main event. C'est quand même sévère, Papy. Mais effectivement, c'est vrai que notre ami Papy regrettait un peu que Cesaro se fasse voler la vedette de son propre moment par la storyline des cousins. Moi, je pense que c'est justement aussi une façon de protéger, de lui éviter trop de micros et de laisser l'histoire s'écrire toute seule. Mais je comprends ce que notre ami Papy veut dire. Peuple de Ketchup, si vous voulez nous donner votre avis, ben n'hésitez pas dans les commentaires. Alors sur YouTube, hein, ben commentez, allez-y, vraiment, ça nous fait plaisir et ça nous est super utile sur la chaîne YouTube où vous pouvez vous abonner. Vous nous écoutez peut-être en version audio, dans ce cas-là, voilà, c'est Google Podcast, Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Pareil, vous pouvez interagir avec nous sur Facebook, sur Twitter, KetchupCDC, sur Instagram et sur le fameux Discord dont on parle beaucoup, où nous avons nos fans qui nous écrivent, qui pronostiquent, participer... aux pronostics pour voir si vous êtes doué et sur lesquels on peut discuter de tous ces sujets. Bah écoute, Zygot, voilà, c'est fini. Qu'est-ce que t'en penses? Un petit dernier mot, un petit retour sur ce premier backlash. Qu'est-ce que tu vas raconter à tes amis et à tes petits-enfants sur ce moment historique de ta vie?
Je ne suis pas sûr que ma fille comprenne le casque que je suis en train encore de regarder. Je pense qu'elle est un peu trop jeune. Mais non, j'étais plutôt agréablement surpris du pay-per-view. Moi, c'était plutôt pas mal. Et puis, ça a été un plaisir pour cette première en duo avec toi, Rafa.
Eh ben, très bien. Moi, ça m'a fait plaisir aussi. Ça fait un petit moment que nous n'étions pas vraiment croisés, d'ailleurs. C'est notre première
en duo. On se tourne autour.
Voilà, c'est ça. Ça y est, c'était la première. Et moi, je suis assez globalement satisfait du pay-per-view. Mais effectivement, c'est cette ambiance qu'on a décrit un peu, c'est qu'on est content sur le catch. Et voilà, solide, c'est un terme. C'est le terme qu'on dit quand c'est bon, mais c'est pas fou. Voilà, putain. C'est solide. Il nous a manqué. Après, j'y réfléchissais, le casting a été un petit peu étonnant. Hein. On n'a pas de Randy Orton, par exemple, ni d'AJ Styles. Pas eu Sheamus en opener, mais pas eu la ceinture intercontinentale. Donc, on a eu aussi une carte assez courte avec pas tant de matchs que ça, mais des gros matchs assez longs. Et puis finalement, alors ça c'est aussi une autre surprise, hein, un pay-per-view qui s'appelle Backlash WrestleMania, on n'a eu aucune affiche qui était une vraie revanche de WrestleMania finalement.
Ouais, et après, un truc aussi que je ne comprends pas depuis très longtemps, c'est l'intérêt des pré-shows avec des pay-per-views en public.
Ouais, ça c'est un mystère, bon, c'est pour le network, j'imagine.
Ouais,
Mais c'est
voilà.
vrai que c'est d'être con d'être catcheur et d'arriver au pré-show et de parler au micro. En plus, là, c'est un open challenge, donc je sais mieux s'il a parlé un peu, voilà, quand il n'y a pas de public. Et bon, il y a le Thunderdome toujours, mais c'est pas non plus la folie, quoi.
Non, c'est clair.
Du coup, c'est vrai que avec le match des zombies où on a eu la déco film apocalyptique, on n'a pas trop eu la réaction du Thunderdome sur les zombies. Je sais pas si ça aurait été une bonne chose.
Non, je sais pas. Mais après, c'est dommage parce que ce côté, c'était tendance, ça a été plutôt. Moi, j'ai trouvé ça cool à regarder.
Ouais.
J'ai vu même avec, un pan de ma vie privée pendant que je regardais le show. Ma compagne m'a dit, elle fait, oh, ça fait cool. Alors qu'elle regarde pas trop le casque, elle a dit, oh, ça fait sympa l'ambiance et tout. Donc, comme quoi, à la limite, ça peut peut-être toucher une partie de la population de ceux de gens qui ne regardent pas forcément le catch et qui vont plutôt se dire, oh, tiens, c'est cool à regarder, c'est marrant ce qu'ils font.
Ouais, moi j'ai trouvé ça bien réalisé, hein, la fumée du sol, là, les décors et les zombies tout simplement eux-mêmes. Mais après, c'est le choix de ça dans
Voilà.
l'ensemble. Voilà, mes peuples de catch-up, vous savez tout, on en a fini avec ce backlash. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des zombies, de Cesaro, de Rhea Ripley, de Bayley, tout ça. Et puis on se retrouve très bientôt. Donc, comme on vous a dit, hein, y a des You Talk Too Much avec des invités de qualité, notamment le légendaire Jean Brassard. Il y a des analyses sur la AEW, il y a des analyses sur NXT, et puis on va repartir avec Raw et SmackDown, comme d'habitude, comme toutes les semaines. Donc restez connectés. Zygote, merci à toi d'être venu, et puis ben, à très bientôt sur Catch Up.
Salut Raph, à bientôt.
Salut à tous. Est-ce que tonton va se faire manger par les zombies?
C'est une bonne question.